Here he comes.
Good morning, everybody. Please take.
Bonjour à tous. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. On va commencer.
Good morning, everyone.
Bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux. Je sais que vous souhaitez tous passer encore plus de temps à parler du RGPD et c'est une opportunité unique. On vous offre cette opportunité ici à l'ICANN. Alors, l'objectif de cette réunion de ce matin, c'est de passer en revue le modèle intérimaire pour la conformité du RGPD contenu dans le livre de recettes et les autres points de contention et questions ouvertes pour que vous sachiez en détail ce que l'ICANN présente à la communauté comme aux autorités chargées de la protection des données et ce dont on va parler pour les prochaines semaine. Donc, John Jeffrey va nous faire une présentation et ensuite, Joran va vous faire part de son sentiment aussi. Ensuite, on vous laissera l'opportunité de poser des questions. Alors, on va utiliser des pancartes avec des numéros pour les micros. Si vous avez une question, allez vous placer à côté de notre personnel ICANN qui à une pancarte avec un numéro et je vous donnerai la parole en indiquant le numéro de la pancarte à côté de laquelle vous vous trouvez. Si vous êtes à distance, vous allez utiliser un autre protocole ici. Sachez qu'il y a une adresse mail. Vous pouvez envoyer vos questions par mail et nous y répondrons. Joran, est-ce que vous voulez saluer notre public? D'ailleurs, je suis modératrice, hein, Joran. Joran Marby au micro. Oui, alors, avant de commencer, j'aimerais vous lire un message parce que je veux m'assurer que tout le monde en a connaissance. Hier, on a été notifié par les membres du ESAC d'un problème en termes de sécurité grave par rapport à Adobe Connect. On a pris la décision afin de protéger les membres de la communauté multipartite de suspendre les services d'Adobe Connect. Et après avoir reçu cette notification, et d'ailleurs merci aux membres du ESAC, nous avons mobilisé une équipe pour commencer une enquête là-dessus. Cette équipe a travaillé tard la nuit dernière, ou je devrais dire jusqu'au petit matin et continuer de travailler pour trouver des solutions alternatives, pour trouver des fonctionnalités alternatives pour les participants à distance. Nous continuons d'avoir une diffusion en ligne en direct et dans les autres salles, il y aura un enregistrement habituel. Questions et commentaires des participants à distance seront traités par mail. Nous vous tiendrons au courant à mesure que nous aurons plus d'informations. Merci à tous. Becky Burr au micro, merci beaucoup. Joran, John, c'est à vous. John Jeffrey au micro. Alors, pour s'assurer du niveau de connaissance de tout le monde là-dessus, nous avons un modèle et un modèle intérimaire concernant la conformité du RGPD. Il est actuellement en ligne. Alors, le modèle Carlson contient toute une série d'éléments qui ont été identifiés à travers les problématiques liées au RGPD, qui ont été collectés à partir du dialogue avec la communauté depuis l'automne dernier. Donc, ce modèle est constitué des différentes contributions de la communauté et liées aux différents modèles qui ont été présentés à partir des différents aspects identifiés par la communauté. Donc, nous allons rapidement passer en revue les différents aspects de ce modèle. La plupart d'entre vous connaissent déjà cette diapo, excusez-moi de le répéter, mais on veut être sûr de disposer tous des mêmes informations. Et ensuite, on va passer aux questions dans la salle aussi vite que possible. D'abord, il y a 4 couches fondamentales ou catégories différentes du modèle. D'abord, collecte, traitement et rétention des données. Ensuite, à qui ça s'applique. Et ensuite, ce qui va apparaître dans le quiz public à mesure que ce modèle est appliqué et ce qui s'applique derrière d'un quiz non public. Donc, ce qui ne sera plus accessible au public et de quelle manière les parties accréditées auront accès à cela. Ensuite, vous montrer un petit peu la portée des différents modèles soumis par l'ICANN. On a essayé de les reprendre tous pour vous montrer les différents éléments. Tout en haut, vous voyez les changements appliqués au niveau international par rapport aux changements appliqués uniquement dans la zone économique européenne. Donc, vous voyez du haut vers le bas avec différents niveaux de modèles. Donc, un accès public complet et autres. Donc, cela figure également sur le site web de l'ICANN et d'après notre évaluation des différents modèles soumis, voilà ce à quoi nous sommes arrivés. Ce n'est pas totalement complet, mais ça présente un aperçu assez général des différents modèles. Donc, je reviens à la première diapo pour passer en revue les différents éléments de la proposition par rapport au modèle Calzone. Alors, collecte, traitement et rétention des données. Quelles sont les données qui vont continuer à être collectées au titre du nouveau modèle? Ce qui sera collecté, les données complètes, détaillées, continueront d'être collectées. À ce titre, il faut déterminer ceux qui sont sous-utilisés ou les données qui n'étaient pas bien situées ou des choses qui étaient utilisées à mauvais escient. Et on s'est rendu compte en discutant avec la communauté que toutes ces données étaient utilisées par différentes parties et ce, à différentes fins. Et en ayant présent cela à l'esprit, notre idée, c'est de continuer à collecter les données complètes détaillées. Et ça, il reste encore à en parler avec les APD. Ensuite, une fois qu'on a collecté ces données, où est-ce que ces données vont être transférées? Il y a deux endroits où elles sont en général transférées, des bureaux d'enregistrement vers les opérateurs de registre et ensuite les agents chargés de l'entiercement de l'ICANN. Bien entendu, les objectifs du transfert entre bureaux d'enregistrement et opérateurs de registre ont abordé des discussions sur d'autres modèles et le transfert de données vers des agents chargés de l'entiercement, c'est quelque chose de particulièrement important ici à l'ICANN parce que l'un des espaces où ces données sont collectées en cas d'événement où il n'y a pas de conformité, en cas de désaccréditation d'un bureau d'enregistrement ou en cas d'accord de registre. Ensuite, en termes de rétention des données, pendant combien de temps ces données vont être retenues? Là encore, il y a beaucoup d'approches différentes et on a décidé d'une durée d'enregistrement plus 2 ans. Pour préserver ces données, certains pensaient qu'il fallait fixer 1 an, d'autres 2 ans. Donc voilà ce qui a été discuté pendant les discussions qui ont porté sur le RGPD. S'agissant de l'applicabilité, est-ce qu'il faut l'appliquer à l'échelle internationale ou simplement dans la zone économique européenne? Ça a à voir avec savoir où s'applique la loi. Bien entendu, ça s'applique essentiellement à la zone économique européenne, mais il y a une préoccupation mentionné par les APD, parce qu'il sera très difficile de dire en dernier ressort où est-ce que cela va s'appliquer et si ça va créer un quiz fragmenté, s'il y a un traitement différencié. Donc, si cela s'applique, quelle que soit l'approche, ça dépend du choix de la partie contractante. Si la partie contractante décide de l'appliquer d'une manière ou d'une autre, il faut que cette partie contractante passe un accord contractuel avec l'ICANN pour choisir cette solution. Ensuite, quel est le type de conséquences pour les titulaires de noms de domaine? Ça s'applique uniquement aux personnes physiques ou est-ce que ça va s'appliquer également aux personnes morales? Nous pensons que cela doit également s'appliquer aux personnes physiques comme aux personnes morales parce qu'il y a c'est trop difficile de les différencier au sein du nom, mais également au sein du processus d'enregistrement, que ce soit du côté des bureaux d'enregistrement comme des opérateurs de registre. Un point très important, et j'aurais dû commencer par cela, il y a plusieurs mois, on a commencé à parler pour savoir s'il faudrait qu'il y ait une approche d'accès différencié ou par couche dans ce modèle. Et les APD en parlent depuis longtemps dans les échanges de courriers autour de l'article 29. Et la plupart des modèles suggérés ici à l'ICANN tendent vers un modèle par couche, c'est-à-dire vous pouvez avoir accès aux mêmes données, mais il y aura également une couche non publique des quiz. Donc, une couche non publique qui sera derrière le quiz non public et vous n'y aurez accès seulement si vous avez une accréditation ou si vous répondez aux critères fixés pour y avoir accès. Donc, voilà le quiz public, le nom des titulaires de domaine, vous ne voyez que l'organisation du bureau d'enregistrement, le cas échéant. L'adresse postale des titulaires de nom de domaine, vous ne voyez plus le nom de la rue, de la ou de la ville, mais simplement de la province et du pays. Par rapport à l'email du titulaire de nom de domaine, nous proposons de créer un email anonymisé ou un formulaire web pour prendre contact avec le titulaire du nom de domaine. Mais ça, bien sûr, c'est un point de divergence encore dans notre communauté et on continue d'en parler énormément. Par rapport au numéro de téléphone et fax du titulaire de nom de domaine, le nom également du contact technique administratif. Dans ces catégories, vous ne verrez plus d'informations de ce type sur le quiz public. J'en viens maintenant à la manière dont les parties auront un accès légitime au quiz. Et l'une des questions qui s'est posée dans la communauté, c'est un modèle d'auto-certification pour y avoir accès. Est-ce que, d'une certaine manière, on peut créer un modèle d'auto-certification lorsque l'enregistrement a lieu pour avoir accès à ce type d'information? Et après avoir regardé avec soin cette problématique, on s'est rendu compte que ce n'était pas une option. On s'est rendu compte qu'il y a la nécessité de contacter une personne pour fournir un email anonymisé, mais si cet email anonymisé n'est pas publié sur le quiz public, on arrive à résoudre la question. Par rapport au modèle proposé, à quoi ressemblerait ce programme d'accréditation? Est-ce qu'il doit y avoir un programme d'accréditation? Est-ce que, d'une certaine manière, les parties doivent être accréditées pour voir qui se cache derrière le quiz non public? On a également des consultations avec le GAC, avec les APD, pour voir en particulier comment avoir accès à cela. Et si l'on propose au pays, à titre individuel, de fournir au GAC une liste des autorités chargées de l'application de la loi et aux autres autorités gouvernementales ou agences gouvernementales d'avoir accès et également créer un code de conduite, une série de règles qui envisagerait des manières de devenir certifié ou d'obtenir cette certification ou d'avoir accès à ces informations. Et une fois que vous avez accès à cette certification, vous avez accès à ces informations. Voilà tout ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite intervenir. Oui, je voulais vous montrer une dernière chose parce que c'est réellement important et ça a été soulevé dans plusieurs conversations cette semaine. Dans le modèle de conformité intérim, il y a un certain nombre de points de vue divergents qui ont été soulevés par la communauté. Vous voyez ici une liste de ces points, collecte et transfert de détails de contacts administratifs et techniques, publication des adresses e-mail, portée de l'applicabilité de ce modèle, vous vous souvenez, je vous en ai parlé, le type d'enregistrement affecté par le modèle intérimaire de conformité, approche intérimaire pour un accès continu aux données du WHOIS détaillées, et là encore, par rapport aux APD, on a parlé du fait de savoir si certaines parties pourraient continuer à avoir accès aux données du WHOIS groupées. Becky Heber au micro. Oui, on va passer maintenant rapidement aux questions avec le micro numéro 2 dans la salle.
Mike au micro. Quand on regarde, quand on voit le modèle numéro 1.1, le modèle d'accès d'accréditation, les parties sont donc sujets à des pénalités en concordance avec ce modèle. Pas les parties, mais la propriété intellectuelle. Quelle est la raison pour laquelle vous allez exclure des pénalités potentielles? Nouvelle intervenante, John Jeffrey au micro. Est-ce que vous pouvez clarifier ce que vous nous avez dit au sujet du document 1.1? Mike au micro, oui, c'est un document qui a été publié le 12 mars. Becky Burr, est-ce que c'est la proposition IPCBC? Je pense que nous en parlerons plus tard dans cette discussion. Parlons tout d'abord du modèle ICANN. Thomas Riquet, Eco-Internet Industrie au micro. Merci d'avoir mis sur l'ordre du jour cette nouvelle séance sur le RGPD. Et merci encore pour tous les progrès qui ont été faits à ce sujet. J'ai deux questions par rapport à ce que John vient de nous dire. La première question concerne l'idée d'un accès en couche. Est-ce qu'il est planifié de donner un accès complet à toutes les parties qui seront accréditées pour qu'elles aient accès à des données complètes, ou est-ce que l'ICANN planifie d'avoir une approche plus nuancée et que seulement les personnes ou les groupes accrédités auraient accès à certains donc sous-groupes, sous-ensembles de données? Comme vous le savez, le groupe de l'article 29 a mis en place un guide sur les exigences des APD et il a mis en place un catalogue de 9 critères. Et je pense que 2 de ces options sont remplies quand il s'agit des données WHOIS publiées. On parle des activités de traitement. Et je pense qu'il faudrait commencer à considérer comment on va préparer un DPIP. Merci de répondre à mes inquiétudes. John Jeffrey au micro. Nous participons avec notre propre conseil et nous avons discuté aussi avec les opérateurs et les distributeurs qui eux aussi ont mis en place des options d'approche. Donc, nous ne voulons pas rentrer dans les détails en ce moment, mais comme vous voyez, nous avons eu d'autres dialogues avec d'autres parties et nous allons voir si ces options sont applicables. Johan, merci pour vos compliments à votre question. C'est un domaine sur lequel il y a des opinions différentes au sein de la communauté. Et c'est la réponse que vous allez avoir le plus souvent, parce que c'est comme ça que nous approchons le sujet. Lorsqu'il y a des opinions différentes dans une communauté, même si nous avons une opinion sur le modèle, nous allons tout de même poser la question aux APD. parce que c'est une question difficile. Nous avons proposé quelque chose. Il y a d'autres propositions existantes. Donc, dans notre modèle, nous proposons un accès complet. Mais comme c'est une question qui est en cours de discussion, nous allons en parler avec les APD. Becky Byrne, nous allons passer au micro 4, 5, ainsi de suite. Jim Prendergast au micro. JJ, quand elle a parlé du livre de recettes, elle a fait référence à des contrôleurs indépendants. C'est contradictoire au mémorandum Hamilton. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'analyse juridique que vous avez utilisée pour en arriver là? JJ au micro, oui. Je ne vais pas être un expert pour vous expliquer toutes ces questions de contrôleurs. C'est une question que nous avons étudiée et comme vous le savez, le mémorandum Hamilton était un mémorandum qui a été fait par une des consultants indépendants. L'ICANN a une utilité limitée de ces données et même si c'est un groupe de personnes qui est très éduqué sur tout ce qui est WIS, il est difficile de rentrer dans les détails. ICANN offre un WIS et la discussion que nous avons eue avec les APD au départ était centrée sur d'expliquer une base de données centrale de l'ICANN où toutes les données étaient collectées. Le WIS correspond à des données qui sont collectées dans différentes étapes, dans différents endroits, à travers les opérateurs, les distributeurs de registres, etc. Il y a des utilités potentielles différentes de toutes ces données. Nous avons des agents fiduciaires, nous avons des transferts et d'autres utilités mineures. Mais nous n'utilisons pas ces données à des fins de marketing. Nous ne les vendons pas. Nous ne les utilisons pas en tant que produits à la vente. À l'ICANN, nous n'avons pas le contrôle sur comment cette information est utilisée par les bureaux d'enregistrement, les opérateurs de registre. Il faut vraiment expliquer ce rôle de contrôleur de l'ICANN. Il faut le différencier. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails juridiques. Je dois pour cela vous donner un mémorandum qui est très long. Au micro, nouvel intervenant. Donc, il y a une analyse interne qui a été faite. Jean-Jeffrey, oui, il y a beaucoup de documents sur le RGPD. Maintenant, vous allez pouvoir trouver beaucoup de données qui ont été publiées sur les statistiques. Nous avons aussi publié nos recommandations par rapport au mémorandum Hamilton. Mike, au micro, vous parlez du conseil, vous parlez de Hamilton ou de quelque chose d'autre? JJ, comme vous savez, nous avons beaucoup d'avocats au sein de l'ICANN qui ont été plus ou moins forcés à s'éduquer très rapidement sur le RGPD. Et nous avons aussi quelqu'un en Europe à l'ICANN qui nous aide sur ce sujet, Becky Burr, micro 5, micro 1. Lindsay, de 101. Deux questions. Quand on parle de la minimisation des données et de son processus, comment est-ce que vous en êtes arrivé à la conclusion des données qui ont encore à être collectées? Comment est-ce que vous êtes arrivé en accord sur cette période de 2 ans? Comment avez-vous décidé des délais? Merci. Johan Malby, je vais parler de la première question. Lorsque nous avons étudié cela au sein de ICANN.org et que nous avons vu quel est notre rôle, nous avons deux ensembles de règlements. Nous devons observer les politiques qui sont mises en place par la communauté. Nous avons des contrats avec les parties contractantes. Je ne pense pas Du moins, je pense que nous devrions rester alignés avec les politiques qui ont été mises en place par la communauté. Donc, nous essayons de trouver un bon milieu par rapport aux politiques. Nous devons rester le plus proche possible, à notre avis, de ce qui a été mis en œuvre, mis en place par la communauté. Je sais qu'il y a des opinions différentes sur la définition de ce travail, surtout quand il s'agit de la conformité. Et c'est ce que nous essayons de faire, d'être le plus transparent possible et de vous fournir les plus d'informations possibles. Mais cela fait 2-3 fois que je dis la même chose. Au bout du compte, est dans les mains des APD pour qu'ils nous aident le plus possible. Nouvel intervenant, je pense que c'est très important parce que nous avons eu beaucoup de questions à ce sujet cette semaine. Dans le livre de recettes, nous avons réalisé qu'il était difficile d'en parler durant la réunion parce qu'il a été publié vendredi. Nous devions suivre les délais que les APD nous avaient fournis. Quand vous allez à la portion numéro 1, numéro 2 de la page 42, vous voyez, il y a des bases juridiques pour les traitements des données et pour la retention des données. Et c'est là que nous essayons de vous fournir le premier niveau de détail sur le pourquoi ces éléments sont collectés et retenus. Donc, je comprends tout à fait qu'il y a des parties qui ne sont pas assez détaillées, mais bon, nous en sommes à notre phase initiale et nous attendons à discuter plus sur ces éléments. Je voudrais aussi souligner que ça a été un sujet important cette semaine et tout le monde dit qu'il n'y a pas de justification sur les raisons pour lesquelles nous avons fait cela, mais si vous allez vous retourner vers ce qu'on appelle le livre de recettes, vous allez trouver ces informations. Intervenant, je fais de la recherche sur les sécurités. Nous sommes là pour essayer d'enquêter sur les personnages malveillants sur l'Internet. Bon, nous sommes inquiets qu'il y ait donc une augmentation de crimes si il y a une réduction de la transparence. Yoran Malby, nous sommes aussi affectés. Notre travail en interne est affecté. Nous n'avons pas de base de données. ICANN.org, nous avons travaillé sur la conformité. Nous travaillons beaucoup avec des personnes comme vous et d'autres entreprises. Il y a beaucoup à dire sur cette thématique. Nous essayons de faire face maintenant à une perspective qui est plus juridique. Nous avons fait une proposition, ce n'est qu'une proposition, sur un modèle d'accréditation. Il est donc important que si vous avez une raison d'avoir accès aux données, vous devez trouver un format pour le faire. Vous pouvez discuter de certains détails, mais vous pouvez aussi discuter du principe. Il y a plusieurs scénarios, bons ou mauvais, ça dépend. Quel est votre avis? N'oublions pas le WIS courant. Pour pouvoir accès aux data, aux données, il faudrait qu'il y ait un due process. Parce qu'il y a un besoin d'information, il y a donc toujours un bon but pour obtenir ces informations. Nous voulons mettre en place un modèle d'accès à l'information, mais nous ne connaissons pas la réponse à cette question. Ainsi, nous plaidons surtout vers les membres de la communauté européenne et les représentants de l'ADP pour qu'ils prennent ça en compte lorsqu'ils discutent de ce modèle d'accréditation. Nouvel intervenant, la question c'était comment je peux participer, comment je peux faire entrer ma communauté dans cette discussion sur l'accréditation. Il y a une adresse à laquelle vous pouvez envoyer vos commentaires. Il y a un dialogue sur le modèle d'accréditation et cela va devenir un thème très important. Aujourd'hui, nous avons une proposition pour sur une approche et nous allons essayer d'engager la communauté pour qu'elle participe dans la proposition. Becky Bear, micro. Je vais prendre les deux personnes qui attendent au micro. Est-ce que vous voulez bien donner votre nom à chaque fois que vous parlez? Essayons. Encore une fois, nous savons qu'il y a que le sujet est très important, mais essayons de rester concrets et restons sur des questions qui sont liées au sujet. Suzanne Kawaguchi au micro. Quand on parle du modèle d'accréditation pour le WIS non public, là-dessus, j'ai deux ou trois commentaires à faire. Est-ce que je peux vous dire que ce modèle a été livré à Goran hier soir? Donc, je vais essayer d'être rapide. Mais beaucoup de membres de la communauté se sont rassemblés et ont développé ce modèle. Donc, nous avons décidé que nous allions nommer ce modèle le modèle Cannoli, parce que ça va bien avec le modèle Calzone. Donc, on parlait des modérations, des menaces de sécurité, que cela augmenterait la confusion des utilisateurs et cela résulterait en des pertes financières et autres. Cela va augmenter l'activité criminelle. Nous avons parlé d'un modèle qui est aligné avec les principes et les exemples des experts du groupe de travail sur la responsabilité. C'est un modèle intérim, pas un modèle complet sur l'accès, mais cela pourrait être mis en œuvre avec qui serait plus facile à mettre en place et désigné, et c'est conçu par rapport au système qui est courant. L'accréditation et l'accès pour les WIS non publics va inclure le type d'entités qui sont éligibles mais qui pourraient rechercher l'accès aux données pour des buts légitimes ou légaux. Cependant, les entités doivent être accréditées pour avoir accès aux données. C'est donc un modèle d'opération proposé et des termes d'accréditation parce que tout le monde pourrait adopter ces termes de service. Ça n'inclut pas une déclaration de but détaillée. Il faudrait qu'il y ait une création de spécificités fonctionnelles ou de en première étape, cela va prendre des services commerciaux, donc cela va demander de l'argent. On ne sait pas qui va payer pour cela. Pour ce qui est des points spécifiques d'accréditation, nous ne nous remettons pas, nous allons nous remettre à certaines parties de la communauté pour recevoir des détails supplémentaires. Il y a donc une communauté qui devrait fournir des contributions en assumant que le CSG, le BC et l'IPC pourraient définir ces critères de certification pour les intérêts IP et que peut-être nous pourrions aller vers le SAC pour obtenir des informations sur l'intérêt de la sécurité cybernétique. Ce modèle n'adresse pas la responsabilité du GAC. Nous avons donc mis en place ce modèle. Nous aimerions le partager avec la communauté de façon à collaborer. Yoran Marby, micro, merci. C'est exactement ce dont on a besoin pour pouvoir continuer. J'ai lu votre modèle. Je ne peux pas dire que je l'ai compris. Je pense que c'est tout de même une bonne proposition. C'est une extension de ce dont nous avons discuté. Mais je vous félicite de votre effort. À cause des délais maintenant, comme vous le savez, nous avons déjà publié notre modèle hier soir parce que nous pensions qu'il était important de faire passer l'information. Ce que je ne veux pas faire, avant tout, il y a beaucoup de discussions qui sont en cours avec les APD. Donc, ce que nous voulons faire, c'est rassembler les informations et de combiner tout cela avec ce qu'on a pour obtenir des réponses. Si les réponses sont positives, bien sûr, nous allons aider financièrement. Est-ce que j'ai dit ça? Oui, j'ai dit ça. On va aider avec de l'argent. Je pense que nous avons besoin tout de même de direction, de lignes directives de la part des APD. Encore, vraiment, je crois que c'est incroyable. J'espère qu'il y aura d'autres personnes, d'autres parties dans la salle qui veulent en parler. C'est typique de la journée du mercredi, puisque mercredi, on collabore entre parties prenantes. Est-ce qu'on est déjà mercredi? Mon Dieu.
Alors, Becky Bear au micro, on va passer à deux. Au micro deux. Merci beaucoup, Greg. Grégory Mounia. Comme vous le savez, la communauté chargée de la sécurité publique et de l'application de la loi sont très préoccupées et la période qui va s'ouvrir le 25 mai est la date d'une mise en œuvre potentielle d'un modèle intérimaire. À cette date, beaucoup de gens qui enquêtent dans le monde perdront l'accès à des informations précieuses. On l'a vu avec ce qui s'est passé avec Adobe Connect et il faut le faire avant le 25 mai parce qu'après, ce sera trop tard. Donc, ma question est la suivante. Une fois que la communauté a identifié les modèles de conformité potentiels au RGPD, est-ce que le conseil d'administration va envisager de déclencher les dispositions pertinentes dans les accords d'enregistrement avec les bureaux d'enregistrement et opérateur de registre, afin de mandater la mise en œuvre rapide de ce modèle, afin de réduire la période de temps pendant laquelle les utilisateurs de l'Internet auront accès à ces données. Il y aura nos micros. Merci et merci de m'offrir cette occasion d'en parler avec vous, parce que c'est une déclaration très importante, mais il est temps de s'y atteler. Si on n'a pas, si l'ICANN n'a pas un contrat commercial, parce que WHOIS n'existe pas dans le sens où ça n'est pas un bien commercial. Nous avons des accords volontaires fondés sur notre modèle multipartite. Ce qui veut dire que si on n'a pas des orientations claires, moi, je vous mets au défi de retourner voir vos APD et les membres du groupe de l'article 29. Et là encore, je rappelle APD et membres du groupe de l'article 29 pour vous donner des lignes directrices claires. Parce que sans ces lignes directrices, notre capacité à appliquer les contrats et les dispositions des contrats qui sont en cours va s'atténuer. Et je pense qu'il est très important de comprendre un fait essentiel, à savoir que si on pense qu'on peut appliquer les choses sans connaître la loi et que cette loi va nous affecter, ça va rendre les choses très difficiles. Et il faut, s'il vous plaît, que vous acceptiez ce fait essentiel. Nous ne sommes pas une entreprise, nous sommes une institution pour allouer les noms de domaine. Et les numéros. Nous ne sommes pas une entité commerciale. C'est ainsi. JJ au micro, merci pour répondre à votre question. Il y avait une deuxième partie dans votre question par rapport à la manière dont le nouveau modèle est un modèle adapté et est-ce qu'il serait en conformité avec le RGPD et comment il peut être appliqué. Et vous avez dit à juste titre qu'il y a une disposition particulière dans notre contrat qui nous permettrait d'appliquer ce modèle au titre d'une disposition d'urgence jusqu'à 2 ans. Donc, il y a un moyen pour que nous, on puisse l'appliquer par l'intermédiaire d'une clause unique dans le cadre d'un accord commercial. Donc, il est très important, si on a ces lignes directrices, qu'on ait la possibilité d'appliquer ce modèle avec des milliers d'opérateurs de registre et de bureaux d'enregistrement. On espère que ce sera suffisant pour amener cette clarté et permettre d'utiliser les mécanismes pertinents dans ces contrats de la manière la plus efficace possible. Becky Burr, micro 1 s'il vous plaît dans la salle. Bonjour, Stéphanie Perrin au micro, je représente l'unité des parties prenantes en commercial. Je peux vous assurer que même si ma proposition relève ou s'inspire de la proposition des parties prenantes non commerciales, nous n'avons pas collaboré avec l'autre groupe, même si j'en profite pour inviter justement les membres de l'autre groupe à collaborer avec nous, parce que nous pensons que nous souscrivons à l'approche des normes ISO en faveur d'un modèle d'accréditation. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes intéressées à venir me parler, parce que ici, j'ai entendu une offre d'argent et je vois que Yoran ne me prête pas d'attention, mais on a besoin d'argent pour opter vers ce modèle de normes internationales en bonne et due forme. Moi, je suis préoccupée par les problèmes à court terme pour ce qui concerne l'accès des autorités chargées de l'application de la loi. Or, l'ICANN contrôle les données d'entiercement et le modèle actuel recommande des données complètes, détaillées, transférées aux agents d'entiercement. Je comprends et je sais que certains vont s'arracher les cheveux et vont dire que je ne comprends rien et que les données d'entiercement, c'est différent. Je pense que les données d'entiercement ne sont pas si facilement accessibles. Il n'en demeure pas moins que les agents d'entiercement, qui sont peu nombreux, moins nombreux que les bureaux d'enregistrement, pourraient être autorisés dans l'intérim à offrir un accès aux autorités chargées de l'application de la loi en cas de cas grave. Je l'espère de manière anonymisée, mais ce genre de contournement pourrait être appliqué de sorte qu'on puisse élaborer un modèle d'accréditation qui soit rigoureux, sans pour autant aller à l'encontre de la concurrence. Donc c'est une simple proposition, on ne l'a pas encore écrite, mais si ma communauté est d'accord, ce qui est fort peu probable, parce qu'il s'agit d'un régime finalement législatif d'application de la loi qui serait le même pour tous. JJ au micro. Merci Stéphanie. Oui, je pense que vous soulevez un point réellement important lorsque vous avez dit que la dernière fois on a entendu une perspective unique qu'on n'entend pas de la part des autres et la manière dont vous avez dit qu'on essaie d'établir un équilibre. Donc merci de ces commentaires, je les salue. Et merci d'essayer de nous apporter votre expérience et de votre contribution à nos discussions. Et nous espérons que vous allez participer pour suggérer d'avancer dans cette approche d'accréditation. Je ne peux pas dire merci, dit Stéphanie. Non, je voulais remercier l'offre très généreuse de Yoran. Micro numéro 4 dans la salle, Becky Burr au micro. Question en ligne, Amy Punt. Les bureaux d'enregistrement ont besoin de passer par le processus d'accréditation pour avoir accès à WHOIS. Question de Amy Punt en ligne. JJ au micro. Je n'ai pas encore reçu cette question, donc malheureusement, je ne peux pas y répondre parce qu'on ne m'a pas encore posé la question. Je ne connais pas la réponse. Je reviendrai vers vous par la suite. Micro numéro 3. Bonjour, Colin Corey au micro. Excusez-moi, je n'étais pas là au début de la séance parce qu'il y avait une autre réunion du groupe de travail sur les droits de l'homme que je préside. Je suis membre du NCUC à LAC et je regardais le modèle du livre de recettes et des dispositions particulières par rapport aux notifications. Il semblait que cela était assez large, mais la manière dont on accède et on rectifie les données est je ne voyais pas quelles étaient les sauvegardes qui pourraient s'inclure dans ce processus, ce qui implique les notifications pour les utilisateurs. Peut-être que si les utilisateurs reçoivent des instructions, des notifications, et qu'ensuite ils ont la possibilité de contester la légitimité de l'intérêt en jeu, et ensuite des intérêts qui pourraient potentiellement s'avérer illégitimes, alors il pourrait y avoir des sauvegardes dans ce système. Alors, je sais que ce n'est peut-être pas valable d'un point de vue juridique dans tous les cas de figure, mais c'est une idée qui m'est venue et je voulais vous la proposer. Il y aura nos micros. Moi, je suis suédois. Alors, je ne réponds jamais aux questions sans bien y penser avant. Alors, très humblement, est-ce que vous pourriez écrire ce que vous venez de nous proposer et nous l'envoyer pour qu'on puisse l'examiner avec soin ? Et merci d'ailleurs. Mais c'est bien là le problème. On n'a pas de réponse pour toutes les questions. On est sur un territoire inconnu pour l'instant. Avec l'aide de la communauté et des avocats, conseils juridiques, on essaie de voir comment avancer autour de ce livre de recettes. Toutes les idées sont les bienvenues. JJ au micro, oui, non, effectivement. Et RGPD, GDPR en anglais, @ican.org, c'est l'adresse à laquelle il faut que vous envoyiez vos suggestions ou idées ou questions. Steve Del Bianco au micro. C'est un modèle dont a parlé Stephen Kalaguchi. C'est le modèle Canoli dont on a parlé auparavant. Non, c'est Suzanne Kawaguchi qui en a parlé auparavant. Donc là, il y a un site par rapport au BC qui est important. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on s'attend à ce que l'ICANN envoie aux APD, comme le modèle Canoli y pense, toutes ces questions, ou est-ce que les idées d'un modèle d'accréditation vont consister à choisir un modèle jusqu'à parvenir à une solution? Je sais qu'on n'a pas le temps nécessaire pour mettre en place ce genre de processus et les entreprises au sein des BC et IPC essaient d'avancer aussi vite que possible, mais je ne pense pas qu'on puisse refaire cela, refaire ce qu'on a fait en janvier et février. Il faut avancer beaucoup plus vite. Donc, quelle est votre idée par rapport au fait d'avancer s'il y a différentes suggestions en termes de modèles d'accréditation qui vous sont proposées? Il y aura nos micros. Si votre question est de savoir si on va envoyer ça aux APD, la réponse est oui. JJ au micro, oui, et par rapport à la deuxième partie de votre question, l'une des choses qu'il est important de voir, c'est qu'on essaie d'encourager les APD et toutes les parties intéressées à participer. Et on n'a pas de processus conçu, parce qu'on n'avait pas de modèle hier. Et on va voir ce qui va se présenter et voir comment appliquer cela très rapidement avant de parvenir à une conclusion. Moi, je n'aime pas le terme de convergence parce qu'il s'agit de voir dans le détail quelles sont les propositions et choisir la meilleure option. Ce qu'il est important de comprendre, Steve Del Bianco micro, c'est que il ne s'agit pas d'un processus ascendant, habituel. On essaie de voir quels sont les modèles proposés, les options. On en sélectionne un. Et j'aimerais savoir si vous pensez faire la même chose, procéder de la même manière par rapport au modèle d'accréditation, ou au contraire, si vous voulez attendre la réaction, les APD, c'est acceptable aussi. Mais ma question est de savoir comment vous allez procéder. Il y aura nos micros. Deux commentaires. D'abord, j'ai dit, dans des discussions publiques et privées, à vous tous, que si la communauté convient de certains modèles, moi, je transmettrai cela aux APD. Et ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez fait s'agissant du modèle d'accès différencié. Et à mon sens, c'est la même chose. Parce que tous ensemble, en tant que communauté, on s'est mis d'accord là-dessus. Et je dois dire aussi que j'ai beaucoup de respect pour les autorités de réglementation en Europe qui vont toutes regarder notre site web, le site web des autres, et vont collecter tout cela. Mais nous, il faut être sûr qu'on soit là, représenté. On a très peu de temps, on le sait tous, et il y a un certain nombre de questions fondamentales qu'il faut traiter. Donc, on fera ce qui sera nécessaire pour s'assurer que cette information parvienne. Si vous l'avez lu, eux aussi l'ont lu, je peux vous le garantir. Moi, c'est ce que j'aurais fait si j'étais à la place des personnes chargées de la réglementation en Europe. Et j'ai le plus grand respect pour ces personnes. Becky Burr au micro. J'ai encore deux personnes au micro 1, puis micro 5, micro 2. Je ne sais pas si on va avoir suffisamment de temps pour traiter toutes ces questions, mais en tout cas, on va essayer et on clôt ici les interventions. Nouvelle intervenante dans la salle. Merci beaucoup. C'est très bon d'avoir cette deuxième séance. Je voulais revenir sur ce que vous avez dit. Oui, nous opérons conformément à des contrats. Je le sais parce que vous les appliquez par l'intermédiaire d'actions de conformité ou d'application. Et il y a des préoccupations de la part des opérateurs de registre. Il y a beaucoup de promesses par rapport aux accords de protection de données et aux amendements y afférents qu'il faut appliquer. Et on est très préoccupé par le fait qu'il y a encore beaucoup d'étapes pour procéder à des révisions internes, révisions externes. Et ça, il faut que je l'intègre à mes propres RA. Donc, en termes de calendrier et en termes pratiques, on apprécierait quelques orientations là-dessus à mesure qu'on avance, parce que ce serait très utile. JJ au micro. Oui, c'était Beth, n'est-ce pas? On comprend la difficulté du processus et on est tous confrontés à la même chose à bien des égards parce que nous avons aussi ce défi du temps à relever. Mais il faut également établir un plan d'action très clair pour les APD pour qu'elles puissent l'aborder et qu'on puisse leur expliquer le modèle d'accréditation. Et parallèlement, on essaie de préserver l'utilisation du WHOIS actuel tout en ayant le temps suffisant de créer un plan d'accréditation dans ces différents éléments. Alors, par rapport à ce que vous avez dit, on attend avec impatience de pouvoir travailler avec vous et toute information, orientation que vous pourriez nous donner est la bienvenue. Je ne peux pas vous dire que demain, nous aurons un accord pour ce qui concerne le traitement des données à votre disposition, que vous pourrez le lire tranquillement, non, on en est pour l'instant à une discussion autour du modèle qu'il faut transmettre aux APD. On essaie de tester cette approche, mais étant donné la complexité de cette thématique et la complexité du modèle d'accréditation actuel, c'est réellement très important que vous vous montriez patient par rapport au temps. Alors, nouvelle question de la même intervenante dans la salle. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit. Est-ce que vous dites par là que vous ne prévoyez pas d'avoir un accord ou texte sur le traitement des données? JJ au micro, non, j'ai dit je ne le promets pas pour demain. Nouvelle intervenante au micro. Oui, vous essayez de calmer un petit peu les esprits pour calmer un petit peu les APD, mais est-ce que ce plan d'action inclut un retard dans les propositions que vous allez nous faire pour les accords? Parce que, étant donné la date du RGPD, nous, on a besoin que ça soit mis en place avant. Becky Burr au micro. Je pense que la réponse à cela est la suivante. Les accords vont être là, mais il faut être sûr des modèles d'abord. Donc, les deux questions sont liées. Nouvel intervenant au micro, Alan Woods, au micro. Alors, Bess en a parlé, mais je suis un peu surpris par la réaction par rapport à la question de Jim, par rapport au contrôleur de données. Est-ce que vous dites que vous n'êtes pas contrôleur de données parce que vous n'avez pas de données complètes, parce que les contrôleurs de données n'ont pas nécessairement besoin de détenir les données. Ce qu'elles font, c'est rediriger l'utilisation des données. Donc, au titre du RGPD, vous êtes sûr que je ne dois pas lire cela? Oui, posez votre question, John Jeffrey, au micro. Nouvel intervenant dans la salle. Oui. Au titre de l'article 26.1, on a besoin, en tant que contrôleur conjoint, l'obligation d'avoir de défendre notre position en tant que contrôleur de données. Nous ne sommes pas en position d'en faire une politique fondamentale en termes de confidentialité pour tous les titulaires de noms de données. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner les données nécessaires pour savoir qui sont ces contrôleurs de données, dans quel domaine et quelle est la responsabilité juridique des contrôleurs de données? Est-ce qu'on pourrait l'avoir avant le 25 mai et d'ailleurs bien avant le 25 mai parce que beaucoup d'opérateurs de registre, beaucoup de conseils d'administration, services juridiques devront donner leur feu vert à cela avant. Or, on s'approche dangereusement de cette date du 25 mai. JJ au micro, non, on ne peut pas dire quel type de contrôleur de données vous êtes, mais on peut dire quel type de contrôleur de données on est nous. La question est de savoir, est-ce que vous êtes un type spécifique de contrôleur de données? Et moi, j'avais tendance à penser qu'on était ce genre de contrôleur de données. Donc, on ne peut pas vous dire quel type de contrôleur de données vous êtes, vous. Peut-être que vous avez une autre utilisation dans le traitement des données que notre propre traitement de données. Donc, voilà ce qu'on va dire. Voilà comment l'ICANN utilise les données. On va être très clair par rapport à ça, par rapport aux responsabilités, utilisation et contrôle de ces données. Mais on ne peut pas dire qu'on va être responsable de la manière dont tous les opérateurs de registre et bureaux d'enregistrement utilisent et collectent les données. Merci.
Beekeeper, passons au micro numéro 5. Brian Woodfelf de IPC. Merci, Yoram, Becky et Gégé, de nous donner un peu plus de temps sur notre sujet préféré, donc le RGPD. IPC, donc très très concerné sur notre capacité de faire du travail pour continuer à travailler avec les forces de l'ordre, etc. Le modèle intérim a été publié. Nous essayons de mettre en place une proposition d'accréditation et j'applaudis le travail qui a été fait par les membres hier soir qui ont donc proposé ce nouveau modèle. Je me demande si ICANN pourrait aider de rassembler une structure pour essayer de mettre en place un groupe genre IRT ou quelque chose de similaire pour nous assurer que nous puissions organiser un modèle d'accréditation dans les délais que nous avons d'ici le 25 mai. Et nous ne déployons pas donc un modèle sans avoir un système d'accréditation. Il faut que nous nous préoccupions vraiment à l'accès des données publiques. Ça, c'est critique. Il y aura un au micro. Je n'ai jamais dit non à qui que ce soit durant les discussions que j'ai eues avec les membres de la communauté. Je voulais vous dire, nous allons mettre ça sur Adobe, mais nous ne pouvons pas le faire comme vous le savez. Donc, nous essayons essayer de nous retrouver pour pouvoir le faire plus tard et pour pouvoir travailler avec vous. Je vous remercie de votre collaboration. Il faut être pratique. Je devais demander à David Olive et son équipe de soutien pour qu'ils participent avec vous. Et j'espère que d'autres parties de la communauté vont en arriver à cette même discussion. Nous sommes très doués à ICANN pour travailler en collaboration. Nous devons malgré tout être très transparents. Donc tout ce qui est fait et dit doit être publié pour que la communauté puisse réagir. Mais si vous voulez commencer à travailler là-dessus, laissez-moi savoir comment nous pouvons vous soutenir. Et nous le ferons. Si j'ai l'air un peu, j'ai pas l'air très en forme, c'est parce qu'on est mercredi et qu'on est le matin. Comme vous voyez, Gégé et moi sommes vraiment heureux que vous fassiez tout ce travail. Becky Burr au micro. Micro numéro 2. Merci. Nouvelle intervenant. Je suis opérateur de registre et bureau d'enregistrement. Imaginons que le modèle et cette proposition de modèle de trois façons différentes. La première chose à avoir avec le nom de l'organisation, c'est une confusion déjà. C'est déjà très confus. Il faudrait atteindre une certaine discernation sur ce qui devrait faire partie de ce modèle. Nous avons aussi des problèmes de vie privée, des données sur le WHOIS. Cela a pris déjà des années. Vous savez, on ne sait pas exactement qui a la responsabilité de quoi. Il faudrait publier toutes ces informations. C'est vraiment quelque chose qui est ingérable pour l'instant. Deuxième chose, pour l'option de vouloir avoir ces données publiques publiées, il faut en parler. Maintenant, c'est une extension des bureaux d'enregistrement, des opérateurs de registre, pardon. Imaginez que tous les bureaux devraient publier des tas et des tas d'extensions avant le 25 mai. C'est trop compliqué. Essayez, s'il vous plaît, de travailler sur une extension EPP et lorsqu'il y aura une dernière version qui sera publiée, on en parlera. Et quand il s'agit des questions de l'anonymisation des courriels, il y a des avis partagés là-dessus. Il faudrait que l'une des deux soit obligatoire, mais pas les deux. Nous sommes bien sûr en faveur de cette anonymisation, pardon. Il y a consensus sur le fait qu'il faut mettre en place de différentes méthodes. Il faudrait qu'il y ait deux ou trois opérateurs de registre qui n'auraient aucun bureau d'enregistrement dans la zone européenne. Pour cela, au moins, ils devraient avoir l'option de se mettre en position de défaut par rapport à ce nouveau modèle. Nous ne savons pas comment cela fonctionnera exactement en détail. Il faudrait qu'ils aient l'option de rester en dehors de l'application de ce modèle. Et la chose la plus importante, c'est l'accès et la certification, le modèle de certification. Je vais faire des commentaires sur les modèles qui ont été... Je voudrais faire des commentaires sur les modèles qui ont été proposés, mais j'ai pas eu le temps de les lire. La chose critique, pour moi, c'est quelle sorte d'accès vont avoir les parties certifiées. Donc, nous avions DOT.4, rappelez-vous. C'était pas si grand, c'était pas si, il y avait pas tellement de GTLD, mais il y en a qui sont plus grands. Vous avez .ca, .uk, vous avez d'autres, des modèles qui fonctionnent, qui sont plus petits, mais qui fonctionnent et qui gèrent. Alors, comment est-ce qu'on va faire la différence? Il ne faut pas concevoir les règlements, car pour tout le monde, parce qu'il y a des acteurs qui sont différents. Il y a beaucoup de parties qui ont montré qu'ils étaient capables de donner des accès adéquats aux différentes parties avec lesquelles ils travaillent. Gégé, merci de vos commentaires. Nous assurer que ce commentaire soit pris en considération. Becky Burr, oui, évidemment, les expériences des personnes qui sont en opération, qui opèrent en Europe en maintenant, vont être prises en considération. Becky Burr, encore une fois, micro, merci d'être venu ce matin. Nous pourrions discuter de ce thème pendant 5 heures ou pendant les deux prochains jours, mais malgré tout, nous allons devoir fermer cette séance. Merci. Yoren Marby au micro, merci à tous.